Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est un petit jeudi aujourd'hui, grisounet. Je sais pas si vous vous sentez comme moi, mais il me semble que c'est une journée à rester en pyjama à la maison, à se faire une boisson chaude, à regarder des films de Noël, puis à nous écouter aussi, si ça vous tente, de partager les grands enjeux de l'actualité ce matin, nous y serons. On va parler d'exploitation sexuelle des mineurs en deuxième heure d'émission parce qu'il y a ce rapport de la commission qui va sortir vers 11h30. Alors, c'est vraiment un sujet dont on va beaucoup parler. On va parler également d'anxiété chez vos animaux de compagnie. Vous avez peut-être remarqué chez votre chien, votre chat, ou votre perroquet, des comportements un peu différents en ces temps de pandémie. Il y a beaucoup, beaucoup d'anxiété, effectivement, chez nos animaux. Puis il y a beaucoup de nouvelles acquisitions aussi. Il y a des gens qui sont, on s'en était parlé, vous et moi, il y a des gens qui se sont procurés un animal de compagnie pour un peu soigner leur propre anxiété. Mais ça aussi, ça a un impact sur l'animal. Donc, on en parlera tout à l'heure. Mais en première heure, je voulais revenir vraiment sur le sujet qui préoccupe, qui continue de préoccuper beaucoup de monde. Et là, il y en a qui font appel à... C'est rendu qu'on se met à prier à un miracle pour Noël. Je ne pense pas que ça soit très productif d'aller là, parce que quand on regarde les cas, plus de 1500 encore hier, c'est un nouveau sommet. Toujours cette barre des 1000 qu'on veut atteindre. L'objectif reste le même. J'en profite pour vous dire qu'il y a toujours cette conférence de presse à 13h aujourd'hui avec le premier ministre François Legault, le ministre de la Santé, Christian Dubé, le docteur Horacio Arruda, Santé publique. Il sera sans doute question de vaccins, mais il va aussi être question, et c'est sûr, de la façon dont on peut renforcer les règles sanitaires. Il y a encore beaucoup de gens qui les suivent pas. Ça, c'est clair. Il y a trop de gens qui ne respectent pas les règles. On a commencé la semaine là-dessus en vous demandant un peu comment vous voyez ça. Si vous étiez témoin, vous aussi, de ces... c'est devenu un mot maintenant, hein, quasiment, qui fait partie de notre vocabulaire, COVIDio. Mais disons les réfractaires. Disons que il y a beaucoup de gens, là, ne sont pas forcément idiots, ils sont juste réfractaires. Pour eux, c'est un vaste complot. Ou tout simplement sont tannés puis estiment que leur petit nombril passe avant celui du voisin. Alors que ça devient difficile. Et je vous réfère à des chiffres qui étaient sortis il y a quelques semaines qui nous disaient d'ailleurs que même les contraventions, ça marchait moyen parce que la plupart des gens, plus de 80% des gens ne les payaient pas, ne faisaient même pas de plaidoyer de culpabilité. Ils s'en foutent, ils s'en fichent. Ils disent « bah ». De toute façon, garde, qui viennent me chercher. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes, pendant cette pandémie, se pensent plus fortes que la police? Moi, ça me fascine. Comment ça se fait que ton voisin, ton beau-frère, ton collègue pense qu'il est plus fort que la police? Il y a Monique qui m'écrivait justement ce matin, parce qu'elle travaille chez un concessionnaire à Saint-Jérôme, puis elle me disait qu'elle avait eu maille à partir, entre autres, avec des clients à plusieurs endroits, dans son concessionnaire où elle travaille, et au fameux Costco de Saint-Jérôme. Puis mon Dieu, il y a certainement quelque chose qui se passe là, parce que vous êtes très nombreux tous les jours à me parler de ce Costco-là. On veut vraiment éviter de nommer le magasin, mais vous le nommez tellement souvent qu'on est quasiment obligé d'en parler. Alors, on va aller rejoindre Monique tout de suite, cliente des Laurentides. Bonjour, Monique.
Oui, bonjour, Isabelle. Merci de m'entendre ce matin.
Merci d'avoir pris le temps de m'écrire, Monique. Vous me donnez l'occasion de remercier tous les auditeurs qui prennent le temps de m'envoyer des mots, qui me prennent le temps de me parler de leur situation. Et la vôtre est intéressante parce qu'elle est tout à fait dans l'actualité. Et vous dites, c'est donc difficile de faire entendre raison à certains clients. Puis là, on le sait, demain, là, 4 décembre, il va donc intervenir des nouvelles règles sanitaires beaucoup plus sévères. Là, le gouvernement les a annoncées hier. En attendant, je vais vous entendre sur votre expérience à vous, Monique.
Bien, écoutez, moi, je suis une cliente régulière du Costco de Saint-Jérôme parce que, à dehors de, bon, certaines lacunes qu'ils peuvent avoir, je comprends que les gens ont peur de dire aux gens de porter une masque et avec certaines compréhensions, avec les taux d'agressivité qui engendre ça. Moi, personnellement, j'ai vécu il y a à peu près 10 jours, je rentre, et comme vous savez, quand on rentre pour identifier qu'on est bien membre, il y a la carte, OK? Puis la personne devant regarde si c'est bien la bonne personne. Alors, il y avait une dame devant moi, elle avait son masque au niveau de la lèvre inférieure. Alors, et j'ai vu qu'elle passe. Alors, j'ai dit, voyons, je rêve. J'ai dit à la personne qui checkait, j'ai dit, madame, vous laissez passer une dame comme ça. Elle dit, je l'ai pas vu. Ben, je dis, voyons donc, je l'avais pas vu. C'est pas votre rôle de vérifier la figure du membre avec sa carte de membre. Je dis, ne me dites pas ça, que vous l'avez pas vu. En tout cas, déjà là, j'étais enragée, tu sais. Et là, ben, je continue mes affaires. Et oui, je comprends que suivre les flèches, là, sur le plancher, c'est pas évident, là, tu sais. On essaye de faire le mieux qu'on peut, tu sais. Mais, il y a des gens, dès qu'ils sont rentrés, puis qu'ils sont dans les allées, ils retirent un côté du masque, ils laissent pendre, puis quand ils voient quelqu'un, ben, ils le remettent. Mmh. Alors ça, c'est, puis à plusieurs reprises, j'ai vu même des gens tousser sans leur masque. En tout cas, j'étais découragée avec certaines, des fois, je dénonçais ça à l'employé. Et je me suis fait dire à plusieurs reprises que ça les regardait pas ou bien que ça me regardait pas. Et j'essayais de voir un gérant, pas moyen de rencontrer un gérant. Écoutez, c'est l'enfer. J'ai l'impression que je rentre dans une cage de lion à chaque fois quand j'ai pas le choix. Parce que là, je me fais faire des lunettes. Je suis très heureuse de servir des lunettes. Mais moi, je me suis dit, la solution de ça, c'est de revenir aux consignes, le temps de personnes pour entrer, de un. Puis de deux, ben la personne là, qui check ta carte de membre, si tu mets pas ton masque, tu restes dehors. Ça, ce sera de deux. Puis de trois, ben écoutez, d'avoir des bobos macoutes déguisés en clients, puis... Je sais pas.
De faire la police dans les allées. Ouais, c'est ça qui est difficile. Et en plus, Monique, vous travaillez chez un concessionnaire à Saint-Jérôme.
Non, ça, c'est une erreur.
Ah, pardon.
Je suis cliente dans un concessionnaire à Saint-Jérôme.
Ah, d'un concessionnaire, là, pardon. Oui.
À deux reprises, j'ai dû reprendre des gens à la salle d'attente.
Ah.
Puis là, la chicane a pogné, parce qu'il y a un autre client qui était dire, en tout cas, le directeur, il a dû dire à l'autre client, en tout cas, c'est l'enfer, puis je crois qu'on est épuisé. L'anxiété, c'est pas juste attraper la maladie, je crois. C'est de rencontrer des monsieur et madame tout le monde qui s'en fout.
Ouais. Vous avez très raison, Monique. Mais vous pensez pas qu'à partir de demain, cette attitude-là, en théorie, ne doit plus être tolérée, là? Puis la responsabilité, le gouvernement l'a directement transférée aux commerçants, aux grandes surfaces.
Ça, c'est de rêver en couleur parce que ça fait quand même un bon bout de temps que ce discours-là est émis et ça ne s'applique pas dans la réalité, Madame Marichal. Mm. Et moi, je suis une ancienne intervenante sociale de métier, puis j'essaie d'analyser puis de comprendre, oui, il y a différents facteurs que les gens réagissent de différentes façons, OK, mais je veux dire, admettre une loi puis les mettre, moi, j'ai l'impression que c'est une loi qui est quand même devenue la responsabilité du monde civil. Les employeurs, on dirait que je ne sais pas pourquoi, ils ont soit par crainte ou bien ils n'ont pas le temps, ils sont débordés. Les raisons sont là.
Et des individus aussi, Monique. Merci beaucoup de votre témoignage parce qu'il est très senti puis il est très juste. Je pense que tout le monde se retrouve un peu, ne serait-ce qu'une fois. On a tous déjà vécu ça. Puis je retiens ce que vous avez dit, Monique, quand vous dites les gens, on dirait, ont peur de le dire à l'autre. Mais vous êtes l'exemple vivant que quand on le dit, on se fait envoyer paître.
Je pourrais prendre l'occasion de vous souhaiter à vous et votre équipe et aussi à tous les gens qui nous écoutent de passer des joyeuses fêtes, quelle que soit la façon que ça va se faire.
Ben vous êtes gentille, merci Monique. Ben oui, puis pareillement, on va souhaiter des belles fêtes pareil. Puis je pense qu'il y a moyen de le faire là. On n'est pas parti, on est encore là pour quasiment 3 semaines, donc on aura le temps de s'en reparler. Mais une chose est sûre, c'est qu'il faut se dire qu'on va y arriver parce que on veut pas l'inverse. Merci Monique, merci d'avoir pris le temps de m'écrire et de nous raconter ça ce matin. Je me tourne vers Guy Ryan, c'est un ex-inspecteur au crime organisé au service de police de la ville de Montréal. Bonjour Guy.
Bonjour Isabelle.
Comme spécialiste policier et de la façon dont on intervient là, pour essayer de faire comprendre aux gens comment ça se passe, puis comment que la police, normalement, on doit respecter les consignes et tout. Je disais tout à l'heure, je comprends pas moi qu'il y a du monde qui se pense plus fort que la police, mais quand on voit par exemple les contraventions, puis je vais poser la question aux gens, est-ce que c'est par des amendes plus sévères qu'on va arriver à faire respecter les normes sanitaires aux récalcitrants? Comment tu vois ça, Guy?
Mais je suis pas convaincu qu'en augmentant les amendes, que les réfractaires vont entrer dans l'ordre. Et je pense que faut revenir au contrat moral du départ, de la part du gouvernement, qui nous demande de respecter des consignes sanitaires. On a un pourcentage de personnes qui ne veulent rien savoir, et ce sont toujours eux qui prennent les autres en otage. Et c'est ça qui fait mal, là. Et ça prend du jugement là pour exécuter ce contrat moral-là. Puis ça veut pas dire qu'au lieu de 1500 $ l'amende, qu'on la monte à 3000 ou à 5000, ça va faire une différence parce que ils s'en fichent, ils ne veulent pas payer, ils ne font pas de plaidoyer de culpabilité, comme vous l'avez bien mentionné. Ils veulent rien savoir. Et c'est ça qui est plate. Et pourtant, dans la première vague, autant dans les grandes surfaces, il y avait des gens qui contrôlaient, il y avait des lignes d'attente, tout le monde respectait. On dirait qu'il y a un relâchement, là. Peut-être qu'avec les nouvelles directives de la ministre Guilbeault, va faire en sorte qu'on va se rapprocher un peu plus du respect de ces normes sanitaires-là.
Mm-hmm.
Parce que veut, veut pas, on a une augmentation de cas, et c'est pas dû juste au Québec, là. On le voit en Alberta, on le voit en Ontario, on le voit à travers la planète.
Mm.
C'est pas à cause qu'on est Québécois qu'on veut pas respecter ça. Mais on a le défi facile.
Mais on dirait quand même, oui. Je sais pas, je lis beaucoup ce qui se passe ailleurs et entre autres au Canada. Bon, oui. Aux États-Unis, par moment, effectivement, selon l'État, ça peut varier.
Dépendant des États.
Exact, oui. Il y a des États qui sont plus réfractaires que d'autres, oui. On va s'entendre. Mais disons qu'au Canada, là, on est pas mal pas pire au Québec, nous, dans la catégorie rebelle. Là. En
oui.
tout cas, contrairement
parce
à ce que...
On aime le défi, ouais. nous. On aime le défi, on le sait. On ouais. roule sur l'autoroute, si on est capable de rouler à 115 au lieu de 100, on va rouler à 115.
Ouais.
Comprenez-vous, là?
Ouais.
C'est la même chose pour le respect des consignes sanitaires. Si on est capable de mettre le masque un peu plus bas, on va le mettre un peu plus bas, mais c'est ça qu'il faut éviter. Il faut suivre.
Mais ce que Monique nous disait, Guy Ryan,
oui.
là, que les gens ont peur
oui.
de le dire à l'autre parce qu'ils se font envoyer paître, puis ça, on peut
oui.
comprendre. T'sais, moi, ça m'est arrivé, puis tu te fais regarder avec des yeux, genre, ben voyons donc pour qui tu te prends. Là. C'est comme insultant.
Exactement.
T'as envie de dire, tu penses que l'autre va te sauter dessus. Tu dis, bon, coudonc, je retourne chez nous vite, puis tu dis, voyons que les gens savent pas vivre. Mais c'est vrai qu'à l'entrée des commerces, puis je me demande peut-être que la solution qui a été présentée par Geneviève Guilbeault hier est une solution qui va faire avancer un peu les choses parce que si on dit
mettre
pas
de la pression.
Ben oui, mettre de la pression puis dire à quelqu'un t'es imputable, là, on a décidé que c'était les commerçants. C'est peut-être pas les bonnes personnes mais c'est ceux-là parce qu'on se dit au moins ils peuvent contrôler la porte d'entrée. C'est une posture mentale, c'est vrai là, puis c'est une posture physique aussi, c'est eux qui contrôlent leur porte. Tu sais, tu rentres, c'est un lieu public, un commerce, mais c'est aussi un lieu privé dans la mesure où tu n'es pas obligé de tolérer un client récalcitrant. Tu peux lui dire, s'il vous plaît, sortez.
Exact.
Hein? Donc
exact.
Là, il y a peut-être quelque chose qui va se passer.
Là. Encore là, ça va envenimer le débat. Et là, il leur donne l'imputabilité aux
ouais.
commerçants,
mm-hmm.
mais sans ressources. Là. Dans le sens qu'ils ne peuvent pas arriver et dire, OK, je vais vous émettre une contravention de 1500 $. C'est pas à eux à faire ça. Eux, là, ils vont juste faire des avis verbaux. C'est ça qu'ils vont faire, les commerçants, là. Et par la suite, peut-être, encourager la personne à quitter le commerce si réellement il veut pas comprendre. C'est ça qu'ils vont faire, là, les commerçants. Mais est-ce qu'on doit aller jusque, comme on a fait à Toronto, de tout fermer encore? C'est là qu'on doit, là, avoir le contrat, le jugement nécessaire pour comprendre qu'on peut laisser des endroits ouverts. Mais il faut respecter ces consignes-là qui sont facilement respectables. C'est ça qui est important, là.
Ah, effectivement.
Et je ne suis pas convaincu que l'augmentation des amendes, parce que vous savez, 1500 $ là, ça commence à faire de l'argent, là. Ça commence à faire des sous, là. Pas parce qu'ils vont payer 2000 ou 3000 ou 3500 $ Puis on ne peut pas tous les incarcérer, là, les contrevenants.
Non. Mais
on
ne
peut
ça
pas
que...
aller là. On ne peut pas les menacer non plus. Que là, ils vont être révoltés, ils vont dire hey, le respect des droits des personnes.
Fait que donc, place, Guy, quand la vice-première ministre dit puis la police va venir en renfort, comme elle l'a dit hier en conférence de presse, dans le fond, ça se peut pas, là. Ou en tout cas, la police n'a pas les moyens d'aller en renfort dans les magasins, par exemple.
À moins qu'ils trouvent une façon d'en engager d'une façon, je ne sais pas, les passer sur la machine là, pour les duplier. Je ne sais pas, là, j'ai aucune idée, mais une chose est sûre. C'est parce que je pense qu'ils sont plus importants à protéger ce qui se passe réellement dans la rue, des actes violents,
ouais.
que d'aller vérifier des lignes d'attente s'ils ont un 2 mètres ou un mètre et demi entre les personnes.
Ouais, je pense aussi.
Puis pour émettre des contraventions qui, dans le fond, ne sont pas respectées par 85% des gens qui la reçoivent.
Qui serviront à rien. Ouais.
C'est pas évident, là. C'est pas évident. Et je crois qu'on doit se re-questionner. Notre société fait un virage. On doit respecter ces consignes-là. On doit limiter nos contacts le plus possible. Et c'est pas facile, là. Moi-même, là, j'ai un gars qui habite à Québec, j'en ai un autre qui habite à Trois-Rivières. Puis c'est pas évident, là. Qu'est-ce qu'on va faire? Mm. Puis je pense qu'on va le faire à distance. Qu'on va le faire peut-être par médias sociaux. Je le sais pas, là. Je le sais pas. Puis c'est pas évident pour personne.
Mm. Non, il faut s'adapter, c'est sûr. Puis c'est une très bonne idée, Guy Ryan, de dire aux gens de se questionner sur leur propre comportement. Oui, on va aller à la pause. Guy, restez avec nous. Guy Ryan est un ex-inspecteur au service de police de la Ville de Montréal, une ville d'ailleurs où il y a eu le plus grand nombre. Ben, c'est la plus grande ville au Québec, donc c'est sûr que c'est là aussi où on a donné le plus de contraventions. Il y a également Laval, il y a la Ville de Québec également. Il y a plusieurs autres municipalités quand même où il y a eu des constats d'infraction de données, mais ça a que ça ne fait pas peur à ceux qui pensent qu'on on est libre de faire ce qu'on veut. Vous allez me dire, vous, si vous avez été, comme Monique tout à l'heure, témoin de ce genre d'agissement, si vous avez dû faire respecter la règle du port du couvre-visage, par exemple. Beaucoup de gens m'écrivent là-dessus. Là, c'est fou, là, j'ai de la misère à tous vous lire tellement vous êtes nombreux à m'écrire. Merci de le faire. Certains, d'ailleurs, ont des suggestions d'intervention. Moi, je vous demande, est-ce que ça passe par des amendes plus sévères ou par d'autres interventions? Puis pensez-vous qu'à partir de demain, ça va peut-être changer dans les magasins? Comme ce qu'on vient de dire, là. Il va y avoir une responsabilité, une imputabilité qui revient aux commerçants, mais ça se peut que vous vous fassiez avertir plus. Il faudrait être poli dans ces temps-là. 514-790-9850 et vous faites le 1-866-790-9850 pour nous joindre. Alors, comment intervenir pour essayer de faire entrer dans le rang ceux qui respectent pas les normes sanitaires? On vit une crise sanitaire, on se demande comment on va réussir à passer à travers. Les gens sont bien inquiets du fait qu'ils pourront peut-être pas se réunir à Noël. On le saura vendredi prochain, parce que le gouvernement Legault va l'annoncer. Et l'objectif étant toujours la barre des 1000 cas. Je ne sais pas trop ce qui risque d'arriver. Il y en a qui disent que ça nous prendrait un miracle de Noël. Ça se peut, ça prendrait en tout cas du monde un petit peu plus docile, pour reprendre le terme que pas beaucoup de monde ont apprécié à l'époque, il y a plusieurs mois, quand Geneviève Guilbeault, vice-premier ministre, nous l'avait dit. Ça serait bien que les Québécois, je fais appel à votre sens du devoir, et il faudrait sans doute être un peu plus docile. Et mon Dieu que ça avait réagi à docile, hein? C'est vrai qu'on est rebelle, on est plus rebelle que docile, je dirais, au Québec. Mais à un moment donné, c'est qu'il faut être aussi responsable. Et ça, la responsabilité, des fois, tu la cherches, parce que c'est pas tout le monde qui a la même compréhension de la chose. Chose est sûre, c'est que c'est difficile pour tout le monde. On est tous au même point, là. Les mesures des derniers mois sont à peu près les mêmes. On n'a pas changé grand-chose. Alors, qu'est-ce qui fait que ça augmente? On n'était pas si pire il y a quelques semaines quand même. Remarquez, on était autour de la barre des 1000. On pensait même qu'on allait en dessous. Mais là, on semble s'être éloigné de ça. Donc, il faut constater le relâchement. C'est peut-être pas vous, mais c'est certainement votre voisin ou quelqu'un quelque part qui relâche. On a Nathalie avec nous. Bonjour, Nathalie.
Bonjour, Isabelle.
On vous écoute là-dessus.
Isabelle, pour moi, tu viens de dire un mot magique qui est le mot responsable. Moi, là, j'ai une entreprise dont deux succursales, une sur la rive nord, une sur la rive sud. On se tue à faire respecter les normes sanitaires chez nous. Si tu n'as pas de couvre-visage, tu n'entres pas dans nos locaux. Et puis tu dois bien le porter, pas en dessous du nez, tu dois bien le porter le couvre-visage. On a le choix de laver les mains parce qu'on a établi des stations de lavage avec de l'eau et du savon, puis on a du Purel. Puis je suis étonnée de voir que plus que la moitié des gens vont prendre le Purel plutôt que se laver les mains. Mm. Comme si c'était pas ancré dans notre nature de se laver les mains fréquemment. Ouais, l'autre chose que je veux dire, Isabelle, c'est que moi, en tant qu'entrepreneur, de faire respecter les règles chez nous, c'est merveilleux. Mais quand moi, je suis cliente, puis que je vais dans un magasin, puis que les règles sont pas respectées, là, ça me frustre. C'est pas à moi d'agir. Je trouve ça frustrant que les entrepreneurs, les propriétaires de magasins soient pas unanimes, soient pas féroces dans leur façon de faire.
Merci. Très bon point, Nathalie. Merci beaucoup. On va joindre Éric Lamontagne. Il est avocat criminaliste chez Contravention Expert. Bonjour, Maître Lamontagne.
Bonjour Isabelle.
Comment faire en sorte de faire que les gens écoutent les règles finalement et les respectent là? Qu'est-ce qu'on peut faire? On a parlé de l'intervention des policiers, mais les policiers le disaient, Guy Ryan est toujours avec nous, puis il nous disait, bon, c'est pas évident, là, puis je pense qu'on a d'autres choses à faire que de dire aux gens, garde, là une contravention parce que tu as mis ton masque sur ton menton au lieu de le mettre sur ton nez. Comment intervenir, Éric, pour que ça change ces mentalités-là?
Ben là, premièrement, je suis un peu surpris parce que c'est sûr qu'il y a des difficultés que vont rencontrer les policiers dans des interventions comme ça. Cependant, c'est le travail des policiers d'appliquer la loi, les décrets, les règlements. Dans ce contexte-là, moi, je trouve que le plus gros problème qu'on trouve là, avec ça, Isabelle, c'est les directives qui ont été données aux policiers. Les policiers se rendent sur place s'ils disent aux gens « conformez-vous », les gens se conforment, la police retourne, c'est terminé. Imagine si on applique ça. Toi, tu étais au cellulaire au volant, tu te fais arrêter par la police te dit « fais plus ça », tu raccroches, vous vous en retournez chacun de votre bord. Ça peut être une direction que veut prendre le gouvernement. Cependant, je pense qu'il faut l'appliquer, cette loi-là. Il y a des amendes entre 1 000 et 6 000 $ donc évidemment, c'est très élevé, c'est assez dissuasif, mais les policiers qui arrivent sur place, qui constatent des choses, devraient à ce moment-là émettre un constat d'infraction. Quand on permet aux gens de pouvoir rectifier la situation, le trouble est déjà fait, la contamination est probablement déjà faite aussi.
Oui, mais en même temps, Éric, la dernière fois que j'ai vérifié, là, encore ce matin, la dernière fois qu'on a eu des chiffres là-dessus, ça date de la fin octobre, puis il y avait eu pour 5,5 millions de $ de contravention de données. 80%, je disais ça aux auditeurs tout à l'heure, 80% de ces constats, les gens les contestent, les payent pas, s'en foutent complètement. Fait que donc, tu sais, entre 1000, 2000, 3000, 6000, 10000, tu sais, j'ai l'impression que tu mets le chiffre que tu veux. Quand quelqu'un est convaincu que la police peut pas le toucher, c'est quasiment, tu sais, de la bravade, c'est quasiment, j'en ai vu ces réseaux sociaux, il y en a qui font comme, hey, viens me chercher. T'as envie de dire, ben, voyons donc, qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est ça que j'essaie de comprendre.
Je comprends, Isabelle, sauf qu'en même temps, dis-toi quelque chose. Là, on est à l'étape, probablement, parce que les gens ont commencé à avoir des dossiers à la cour. Là, ça fait pas tellement longtemps pour ceux qui voulaient contester ces affaires-là. Les gens se sentent probablement braves là quand ils disent « Bon, ben envoyez, allons-y, donnez-moi un constat d'infraction. Moi, je vais contester ça jusqu'à ma mort. » Mais le système judiciaire va suivre son cours pareil. Et les gens, admettons, sont reconnus coupables devant le tribunal et qui décident de ne pas payer cette amende-là, ben les conséquences vont s'en suivre après. Fait que c'est sûr qu'actuellement, les gens, c'est assez chaud. Hein. La population, là, en ce moment, je t'apprendrai rien en disant que les gens sont tannés. Et il y a une confrontation un peu des gens, justement, qui sont tannés des mesures versus des gens qui sont tannés, justement, d'avoir à se priver. Et quand les policiers n'émettent pas de constat d'infraction, et là, je ne blâme pas les policiers reçoivent des ordres. Cependant, c'est un peu discréditer justement tout le travail qui est fait par les gens qui font attention. Alors, est-ce qu'on prend ça au sérieux assez pour émettre systématiquement des constats d'infraction? Parce que tu sais, Isabelle, là, on est dans une situation pandémique, mais il y a d'autres situations dans le passé qui n'ont pas rapport avec la pandémie. Est-ce que la loi a dû constamment être ajustée parce que les gens ne comprenaient pas ça et avaient des comportements qui étaient préjudiciables? Donc, est-ce qu'ils vont devoir faire la même chose? Moi, je te dis une chose. C'est sûr qu'au départ, allez-y, donnez-moi un constat d'infraction, il n'y a pas de problème, je vais me défendre. Le système judiciaire va les attendre de quelque part aussi avec une défense. Et s'ils n'ont pas de défense, ils vont être reconnus coupables. Et là, le système va continuer son chemin.
On va revenir après la pause tout de suite, puis Guy Ryan pourra réagir à ce que vient dire Maître Lamontagne. Et bien sûr, vos commentaires et opinions là-dessus. Comment croyez-vous qu'il faille intervenir aujourd'hui? Parce qu'on a essayé beaucoup de choses quand même. Là, dès demain, ce sera aux commerçants là, de faire respecter les règles. Ça pourra aller jusqu'à faire éjecter quelqu'un du magasin si la personne est trop réfractaire. Mais comme le disait tout à l'heure... je pense que c'est Guy qui disait que ça pouvait d'ailleurs contribuer à faire monter un peu la tension. On voudrait pas non plus qu'il y ait des échafaudés. On voudrait pas que les gens se mettent à s'attraper, à se pogner carrément, puis qu'il y ait de la bataille dans les magasins. Là. On a déjà vu ça, des gens qui s'étaient fait frapper par d'autres. Là. On voudrait pas que ça devienne un problème non plus. Donc, c'est pas simple. C'est pas une façon... c'est très peu commun ce qu'on vit. Là. Alors, comment intervenir? On vous écoute tout de suite après. Je voulais faire réagir Guy Ryan, ex-inspecteur au crime organisé du service de police de Montréal, au propos là, d'Éric Lamontagne. Maître Lamontagne disait, Guy, que bon, c'est quand même aux policiers que revient le travail de faire respecter la loi, notamment les règles. On entend beaucoup le gouvernement nous les annoncer. Hier, la vice-première ministre Geneviève Guilbeault et ministre de la Sécurité publique a quand même dit que les policiers pourraient venir prêter main forte. Vous disiez tout à l'heure, ben ça sera pas simple, on a d'autres choses plus importantes à faire. En même temps, dans un cas, comme à partir de demain, est-ce que c'est plausible et pensable de voir plus de policiers, par exemple, dans les centres commerciaux, Guy?
Bien, probablement, parce que c'est là que la masse des gens, puis ils vont sûrement intensifier les moyens coercitifs. Mais, vous savez, le contrat moral, et je reviens là-dessus, là, ce n'est pas de punir, mais c'est de tenter de prévenir. Et je crois, là, on a mentionné des bons mots, là, le jugement, la responsabilité, le respect. Mm-hmm. Le respect, là, on ne doit pas, nous, là, et comme toi, Isabelle, comme la première intervenante, la madame de Saint-Jérôme, de ne pas être intimidé par ceux qui sont fâchés qu'on leur dise de respecter les distances, de respecter les consignes sanitaires. Ce n'est pas eux qui ont raison. Ils ont tort. Ils font du mal à autrui. Ils font du mal aux autres de ne pas respecter les consignes. Mais c'est dans le respect pour ne pas avoir éventuellement une augmentation de violence, parce que vous savez, il y a déjà pas mal de tensions dans notre société en ce moment, là, avec tout ce qui se passe. Mais vous savez, on est là pour on doit respecter la signalisation à l'intérieur des grandes surfaces. Il y a moyen de regarder la flèche, puis de regarder la personne, puis je pense qu'il y a une façon de comprendre. Puis il y en a plusieurs, oh, j'ai oublié, puis ils vont faire un demi-tour avec le carrosse, puis ils vont partir de l'autre côté. Il y a lieu de s'assurer qu'on suive ça, ces consignes-là, d'une façon respectueuse. Tant qu'à mettre la montagne qui dit que les policiers ont des directives, effectivement qu'on a des directives pour faire suivre les lois, puis les décrets, puis les cibles, et ça. Mais est-ce que ça prend toujours le bâton où on peut avoir un jugement? Ils ont un pouvoir discrétionnaire.
Mais je pense que plus ça va au Québec, puis plus ça prend de bâton. Je sais pas, mettre la montagne?
Ben, peut-être, mais à 80... Vous savez, là, c'est une personne âgée là, qui ne respecte pas les consignes. Là. Pensez-vous que parce qu'on lui émet une contravention de 1500 $ ou de 2000 $, ça va faire un changement drastique dans sa vie? Mm-hmm. Il y a lieu d'avoir une approche humaine. Moi, je crois à l'approche humaine.
Ouais. Éric?
Bien, là, je comprends. Ce sont tous des beaux mots. Là. Jugement, responsabilité, respect.
Ouais.
Ce sont des valeurs sur quoi notre société doit se reposer. Mais qu'est-ce qui arrive quand, justement, ce n'est pas respecté? Quand ces valeurs-là ne sont pas appliquées, à un certain moment donné, il va falloir que quelqu'un intervienne et c'est là que l'État doit intervenir. Alors, je comprends qu'on ne doit pas partir avec le bâton puis frapper personne, mais à un certain moment donné, quand les policiers décident, autrement dit, par son bon jugement, d'agir, c'est parce que fort probablement que ces valeurs-là n'ont pas été respectées, elles doivent l'être, surtout dans une situation pandémique.
Fait qu'on fait quoi? Parce que là, il y a Sylvie qui dit, moi, on devrait enlever des points d'inaptitude sur le permis de conduire, plus des amendes, au lieu de donner des infractions pour les gens qui ne respectent pas les consignes COVID. Fait que si tu es un conducteur, puis il y en a quand même beaucoup des gens qui ont un permis de conduire, tu sais, tu vas au centre commercial, ça se peut que tu aies pris ta voiture pour y aller, ça se peut que tu aies marché, mais il y a quand même des stationnements sont en général très pleins, donc on peut supposer que les gens ont des permis de conduire. Est-ce que ça peut être possible, là, mettre la montagne, ça?
Non, je pense qu'il faut pas mélanger les affaires. Laissons le sac avec ses affaires là, de conduite automobile. Je pense que c'est tout autre chose et qu'il faut pas mélanger les choses.
Guy, qu'est-ce qu'on fait?
On va intensifier les moyens coercitifs, puis on va continuer à distribuer des contraventions en vertu du décret. C'est ça qu'ils vont faire, les policiers. Ils n'ont pas le choix.
Et Pierre, d'ailleurs, là-dessus, m'écrit puis dit aux crétins qui ne respectent pas les consignes, un, on prévient. Deux, sinon respect, amende salée. Trois, sinon payé, dossier criminel. Et il y a beaucoup de gens qui disent comment ça se fait qu'ils ne payent pas ce monde-là. Ils sont très étonnés de voir que, finalement, on en donne des contraventions. Les policiers, d'une certaine façon, on ne peut pas leur reprocher de ne pas faire leur job. Ils en ont donné des contraventions pour plus de 5 millions de dollars au Québec au cours des derniers mois. C'est quand même pas rien. Mais les gens ne les payent pas, font fi de ça. Est-ce que c'est si facile que ça? On a une contravention, on ne la paye pas, puis that's it, elle disparaît, Guy Ryan?
Non, ça suit le cours normal. Ça suit le cours normal. S'il n'y a pas de plaidoyer de culpabilité, il va y avoir
un jugement par défaut.
Et par la suite, il va avoir des frais ajoutés. Et s'il n'y a pas de paiement, ça devient un mandat d'emprisonnement. Là. C'est facile. C'est même pas c'est inclus là, dans la loi, puis c'est inclus dans le décret également. Là. Mm-hmm.
Donc, mettre la montagne, oui. Mm-hmm.
Ils ont le droit, ils ont le loisir de se défendre également là, s'il y a un préjudice quelconque. Ils vont faire appel à l'avocat pour essayer de se faire défendre. Et par la suite, là, ça suit le processus judiciaire normal là, pour une amende non payée.
Oui, et mettre la montagne peut en parler beaucoup parce que en plus, vous êtes contre tout le temps là-dedans, Éric, là, les contraventions, les gens qui les contestent et tout. Vous dites avant la pause, là, on commence à voir des cas là, arriver là, en cours, là, des cas là, de...
Oui, il y en a quelques-uns, oui. Je pense que je suis d'accord. Là, écoute, le système est déjà tout en place pour ça, Isabelle. Il est déjà tout prêt à agir. Donc, si quelqu'un ne paye pas son amende, est reconnu coupable, il va y avoir le système, autrement dit, va partir et les gens, là, vont la trouver un peu moins drôle quand ils vont commencer à avoir des problèmes parce que là, on parle de dossiers en cours qui sont commencés il n'y a pas très, très longtemps, effectivement.
Et ça finit comment? Est-ce que les juges...
C'est-à-dire, les juges appliquent tout simplement la loi puis les décrets, les règlements. Il faut dire quelque chose aussi, Isabelle. C'est que si on veut présenter une défense pour ça, mettons qu'on veut présenter une défense de nécessité, une défense de diligence raisonnable, des défenses qu'on applique généralement au pénal, il en demeure pas moins qu'il faut avoir une excuse assez importante. Là. C'est très, très simple ce qui est demandé à la population. Maintenant, s'il y a des cas qui sont à part, des gens, par exemple, qui auraient une nécessité, une défense de nécessité étant, autrement dit, une défense pour laquelle je n'avais aucune autre option.
Oui, t'es mieux d'être asthmatique puis de prouver que tu étais sur les pompes depuis une couple d'années, si tu veux.
Exactement, il faut avoir une justification.
Ouais. Ouais. On a Alexandre qui nous appelle. Bonjour, Alexandre.
Salut, Isabelle, ça va bien?
Oui, on vous écoute sur ce sujet.
Oui, écoute, moi, je suis représentant sur la route, puis c'est sûr que ça a changé beaucoup ma vision là, puis ma façon de travailler depuis le mois de mars dernier. Mm-hmm. Mais ce que j'ai remarqué depuis mars dernier, les fois que j'ai à sortir chez des clients, écoute, il y a beaucoup de gens sur la route. C'est fou le nombre de personnes sur la route. Moi, je couvre toute la Rive-Nord, dans le fond, Laval et compagnie, puis il y a des gens sur la route. Il y a beaucoup de gens dans les centres commerciaux, dans les magasins un peu partout. Il y a beaucoup trop de gens. C'est un petit peu plate la nouvelle loi qui va arriver vendredi pour les petits commerçants parce que si on parle de 20 mètres carrés, t'as le droit à un client à la fois. C'est pas tellement grand, mais je pense que c'est une bonne chose parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées aussi que je vois conduire sur la route. Puis parce qu'ils se rendent en quelque part, ces personnes-là aussi.
Ouais.
Eux, ils restent pas à la maison. Puis je pense qu'ils sont un petit peu plus à risque que la population active, comme on pourrait dire.
Oui, mais c'est un bon point, ça, Alexandre. Puis je pense qu'on a oublié la règle numéro un qui a été celle avec laquelle on a tous dû composer pendant des mois de confinement, c'est le rester chez vous. Aujourd'hui, tu restes pas chez les gens. On n'a pas compris que c'était encore valable, ça, le rester chez vous. Mais ça l'est, là. Normalement, tu n'es pas supposé de promener tant que ça si c'est pas nécessaire. Ben merci beaucoup, Guy Ryan, ex-inspecteur au crime organisé du SPVM. Merci, Guy. Merci, Maître Éric Lamontagne, avocat criminaliste, contravention expert. On va aller à la pause là-dessus tout de suite après. Bon, Guy nous a beaucoup parlé du contrat moral. En même temps que je vous parlais tout à l'heure puis que j'écoutais, je voyais là qu'à l'Assemblée nationale ce matin... Ça brassait pas mal fort. François Paradis, le président de l'Assemblée, avait de la misère à contrôler tout le monde. Dominique Anglade, chef de l'opposition, François Legault qui se poignait. Sur quoi? Sur le fameux contrat moral. On en parle avec notre éthicien René Villemur après la pause. Et vos commentaires, bien sûr.
Les deux se disant victimes hurlent de plus en plus fort. Quand soudain les larmes perlent, on se mouche bruyamment. Et l'on repart de plus belle, les yeux injectés de sang. La dispute, la dispute atteint des points culminants.
Ben, mon public est créatif là, pour essayer de trouver une façon de contrôler les récalcitrants qui ne suivent pas les règles. Beaucoup de gens là, qui m'écrivent que le port du masque, d'ailleurs, c'est un problème. Désormais, le nez n'est plus inclus. Il semble que tout le monde ait compris que tu peux porter ça en bas du nez. Quand c'est pas carrément en dessous de la lèvre, donc c'est-à-dire sur le menton ou juste accroché. La mode, là, c'est accroché à une oreille, puis ça pend. Quand tu vois quelqu'un, hop, tu te le remets de l'autre bord. Mais on vous rappelle les règles de gestion des gouttelettes, là, mais bon. Beaucoup de gens, je vous disais, créatifs, il y en a qui disent un dossier criminel, puis ça presse, pour tous ceux qui respectent pas. Vous avez compris ce qu'on dit, notre policier de tout à l'heure, puis notre avocat. C'est que là, les cas n'étaient pas encore traités par le système de justice. Mais là, ça s'en vient, là. Puis il y en a qui vont l'apprendre à la dure. Ceux qui pensent qu'ils n'ont pas, ils font comme si ça n'existait pas une contravention. Aujourd'hui, c'est de facto. Là. Si t'es pas là pour te défendre, tu viens de perdre ta cause. Puis dans beaucoup de villes, comme Montréal, par exemple, ils t'envoient pas là, de deuxième, troisième avis pour te prévenir que c'est tout à l'heure. C'est too bad. T'étais au courant, tu l'as reçu une fois, on te l'a dit, t'es pas présenté, tu vas payer. Fait qu'il faut, peut-être que dans quelques semaines, il y en a qui vont moins rire. Il y en a qui disent travail communautaire aussi pour aller désinfecter les surfaces sales dans les écoles, les CHSLD. Je vous dis, le monde est créatif. Nicole, bonjour! Bonjour,
oui,
Nicole.
Bonjour.
On vous écoute.
Oui, moi, j'appelle parce que simplement, moi, je t'avais la salle, une des places les plus infectées.
Oui.
Moi, je prends l'autobus à partir du métro en Grignon, la 109, vers 2h30. Là, on ramasse les gens qui travaillent dans les entrepôts, les manufactures. Okay?
Mm-hmm, mm-hmm.
La plupart des gens portent le masque sur les lèvres, pas sur le nez, ou il y en a qui l'enlèvent complètement. En rentrant dans l'autobus, il n'y a pas de problème, ils ont des masques, mais après ça, dans l'autobus, ils les enlèvent.
Ils enlèvent leur masque dans l'autobus?
Oh, madame! Il y a personne qui perd des autobus puis du métro, hein. C'est ça, ça me fait rire. Puis surtout qu'en autobus, pas en métro, on peut pas se distancer.
Mm.
On est toujours un à côté de l'autre. C'est incroyable.
Donc,
la
vous
dernière
vous dites
fois, la semaine passée, j'ai changé 3 fois de place.
Puis les
parce
gens,
moi,
avez-vous essayé de dire aux gens, ben mettez votre masque comme il faut?
Madame, c'est dangereux. Vous savez que c'est dangereux.
Ouais, ouais.
Il y a des gens qui vont rentrer pas de masque dans l'autobus. Moi, je l'ai vu faire 2 fois là, la semaine passée.
Mm-hmm.
Le monsieur regarde le chauffeur en voulant dire, tu sais, je te la ferme. Puis en plus, il passe sans payer. Tu sais, je veux dire, c'est rendu loin, là. Toi, tu travailles, tu as travaillé toute ta vie, tu as toujours payé, tu as toujours respecté, puis tu vois ça aujourd'hui.
Mmh. Merci. Merci.
Les gens ont peur. Mmh.
Merci beaucoup, Nicole. René Villemur, esthéticien. Bonjour, René.
Bonjour,
on conclut sur ce sujet, puis j'avais envie de reparler du contre-moral parce qu'il a été énoncé plusieurs fois, entre autres par Guy Ryan tout à l'heure, qui nous ramenait à ce contre-moral. Puis je racontais aux auditeurs que ce matin à l'Assemblée nationale, il y a eu un gros débat entre François Legault puis Dominique Anglade là-dessus, la chef de l'opposition, puis ça s'envoyait des insultes à tel point que François Paradis, le président de l'Assemblée, a dû leur dire « Retirez vos propos, s'il vous plaît, tout le monde, calmez-vous ». Fait que c'est pas juste les gens là, des magasins qui sont à bout, tout le monde l'est. En même temps, rappelez-nous le contre-moral, parce que est-ce que Guy avait raison de nous le rappeler, que c'était ça qu'il fallait se remettre en tête aujourd'hui?
Ben, j'aime toujours quand Guy nous amène le côté jugement, responsabilité et respect. Mais ça marche quand on est quand les deux parties sont d'accord.
Exact.
Et puis dans ce cas-là, on a une partie qui est pas d'accord. C'est drôle parce que les gens qui ne veulent pas porter le masque, vous savez, c'est pas parce qu'ils sont contre ceux qui portent le masque, mais eux autres pour eux, c'est leur vision du bien, pas porter le masque. Mais cette vision du bien-là, elle est dangereuse. Ça met en danger la sécurité des gens et puis elle risque de créer des conséquences qui sont intenables. Dans un contrat que l'on passe entre les parties, si une partie ne s'y conforme pas, ben la première partie a quand même le devoir de protéger l'autre.
Mmh.
Et c'est difficile de demander au magasin de s'occuper de eux-mêmes faire la police. C'est difficile de demander à la police de tout faire ça, mais à un moment donné, il va falloir, je crois, une fois que la méthode douce, l'enseignement, le contrat moral n'a pas fonctionné, il va falloir faire des exemples. Ça a toujours une certaine force. C'est malheureux, mais on arrive à ce point-là.
Et là, je pense qu'on n'a pas été en mesure de le faire, qu'on pense aux anti-masques qui sont allés manifester dans une épicerie de Limoilou comme pour leur bonne action. Là. C'était leur action du jour où la gang de danseurs amateurs qui sont allés au centre d'achat Rosemère faire une petite toune, pas de masque. Ils trouvaient ça bien comique. Eux aussi, c'était leur bonne action de la journée. Je veux dire, il y a quand même un agent de sécurité au Walmart là, qui est mort parce qu'il avait été frappé mortellement par quelqu'un là, qui respectait pas les règles. Puis lui, comme agent de sécurité, voulait les faire respecter. L'autre, il est rentré dedans avec sa voiture. Il y a quand même de plus en plus de cas au Québec. Là. Puis là, ouais, Nicole vient de nous le dire. On a peur de le dire aux autres.
Ben oui, puis là, on est rendu dans un mode de défiance. Alors là, il y a les personnes qui ne veulent pas porter le masque, qui défient le gouvernement, qui défient les autres, qui défient les voisins. Et ça, là, on peut pas vivre dans un monde comme ça. C'est malheureux. Écoutez, moi, le gars de l'éthique, en général, je vais prôner le dialogue et tout ce qui va avec. Mais là, je dois admettre que ça n'a pas fonctionné. Et donc, il va falloir que l'on hausse les mesures, qu'on durcisse les actions. Pas les sanctions tout de suite, parce que, comme M. le juriste dit auparavant, on n'est pas en cours. Les gens n'ont pas vu l'impact de ne pas payer un billet pour l'instant. Mais il y a un exemple à aller faire dans la population, parce que, vous savez, c'est un danger. C'est mettre la population en danger, et ça, on ne peut pas le tolérer.
Oui, tout à fait. Donc, il y a quelqu'un qui me rappelle très justement. Imaginez, on est allé menacer le premier ministre lui-même. Il y en a qui sont même qui ont essayé de se tromper de maison. Ils pensaient qu'il était qu'il habitait à Westmount. Mais on est allé devant la maison du Dr Arruda. En fait, c'est comme s'il y en a qui n'avaient plus peur de personne. Je vous dis, on a de moins en moins peur de la police au Québec. Puis ça, je pense que j'ai
l'impression. C'est intimidation. Voilà. C'est ce que c'est. C'est de l'intimidation, ça. Ouais. Alors, je pense que si c'était un tout autre sujet, on aurait agi avant.
Merci. Merci beaucoup, René Villemur. À tout de suite après les nouvelles, tout le monde.